formule pour commencer à enregistrer. Donc, aujourd'hui, Bezrat Hashem, nous allons traiter de la fête de Shavuot. Nous allons essayer de comprendre, en fait, ce qu'elle vient nous enseigner. Il faut vous enlever de la tête l'idée que cette fête vient seulement commémorer le don de la Torah. Ça, c'est effectivement ce qui s'est passé dans la nature, dans la réalité, mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond que cela, qui vient nous dire, en fait, que l'idée première qu'il y avait avant la création même de ce monde, c'est-à-dire la loi éthique qui gérait l'infini béni soit-il, qui était en fait toute la volonté de l'infini béni soit-il, toute cette idée première, toute cette morale première, qui était en fait elle-même la, le plan de toute la création, eh bien, toute cette idéologie-là était étouffée jusqu'au moment du don de la Torah. Autrement dit, il y avait ce qu'on appelle dans la Kabbalah une klipa, une écorce de silence. Dieu ne s'était pas révélé durant ces 2000 ans. Et donc le monde était dans un état de tolu vavohu, puisqu'il y a un partage de trois parties dans toute l'histoire humaine, 2000 ans de tolu vavohu, 2000 ans de Torah, et 2000 ans de jour messianique. Avant le don de la Torah, de cette fête de Shavuot que nous fêtons, il y avait en fait un silence divin qui faisait que le monde d'en bas, la création tout entière, était dans un état de tohu-bohu, c'est-à-dire sans aucune direction, sans aucun sens. Personne ne savait en fait où ce monde aller, vers quoi il avançait.
C'est...
Ça, ce sont des personnes individuelles. Il n'y a pas encore une Torah qui est donnée au monde. Il n'y a pas encore une loi divine. Alors, ils étaient à un niveau prophétique où ils ont entendu des choses. C'est pas suffisant parce qu'ils ne peuvent pas le faire en tant qu'individu. Il faut être un peuple pour le faire. Tant que nous sommes des individus, ça ne marche pas. C'est Dieu qui le dit lui-même à Abraham. D'accord? Il lui dit, l'ech lechat, ve etra l'egoï d'ado, je veux faire de toi une grande nation, ve nivrechou becha kol mishtechot adama. C'est seulement en tant que nation que tu pourras diffuser ma parole. En tant qu'individu, c'est sympathique, tu vas avoir 10 000 personnes maximum, mais c'est pas l'humanité. Là, il y a quelque chose, un changement total, et une réception de quelque chose. Pas du vide. C'est pas j'ai dit, on m'a dit que là il y a un élément qui est très fort, avec une histoire, une Torah, un texte, qui va descendre, et au-delà de l'histoire que ce texte va raconter, il va en fait donner un message beaucoup plus subliminal, caché à l'intérieur, de comment le monde doit être géré. C'est comme si maintenant, Dieu donnait le plan pour que ce monde réussisse. Jusqu'à maintenant, il ne l'avait pas donné. Question, pourquoi il ne l'a pas donné jusqu'à maintenant? Réponse, parce que la forme humaine qui était capable de le recevoir n'était pas encore là. Je veux parler du peuple d'Israël. Donc nous sommes ici dans un engrenage qui emprisonnait Dieu et qui l'empêchait de se dévoiler sur terre tant que le peuple d'Israël n'était pas dévoilé. Quand est-ce que le peuple d'Israël s'est dévoilé? 50 jours avant, à la sortie d'Égypte. Au moment où il y a maintenant un peuple d'Israël, il va devenir l'intermédiaire, il va devenir le porte-parole, il va devenir le porteur de ce message. Donc ce message maintenant va descendre. Donc, si on ne comprend pas le don de la Torah, au moins à ce niveau-là, ça reste une petite fête religieuse, j'ai reçu la Torah, je fais machin, Hadashavuot, on mange du lait, de l'étage et des machins. Il faut bien comprendre qu'il y a ici une révolution totale au niveau de la vie et de toute la création tout entière. Ça veut dire qu'en fait, qu'on a appelé tout à l'heure la klipa, l'écorce du silence divin, d'un coup cette écorce s'est cassée, s'est explosée. Et à partir de ce moment-là, l'infini béni soit-il commence en fait à revenir dans sa propre création. Jusqu'à maintenant, il s'était retiré de sa création. Comment est-ce qu'il s'était retiré de sa création? Bien, tout simplement pour créer le monde, il fallait que l'infini se retire entre guillemets, se mette dans un secret, dans une cachette. Parce que lui présent, le monde ne peut pas être, vous comprenez. C'est comme si je prenais trop de place et je laisse aucune place à personne d'autre. L'infini béni soit-il, s'il prend de la place, personne d'autre ne peut exister. Donc pour que quelque chose d'autre puisse exister, pour que quelqu'un d'autre puisse exister, qu'est-ce qu'il fait? Il se cache. On appelle ça le tsimtsoum. C'est-à-dire il s'est contracté. Il s'est fait tout petit, il s'est caché pour laisser une autonomie. Quand vous allez être papa, Bezrat Hashem, c'est très important de comprendre ce secret. C'est-à-dire que vous ne devez pas être trop présent. Sinon, vous étouffez l'enfant. Donc, il faut être présent, mais savoir en même temps se cacher, se retirer pour laisser à l'enfant une autonomie, pour qu'il grandisse, pour qu'il devienne lui-même, ce qu'il doit être, et pas la réplique de son père qui lui dit « fais 1, 2, 3, 4, 5 ». Ça, c'est pas de l'éducation. La vraie éducation, c'est de donner une impulsion de désir et de se retirer pour laisser à l'enfant l'autonomie de grandir de lui-même. Et bien, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait dans la création. Donc, il s'est retiré en quelque sorte. Il a caché sa lumière, plus exactement. Et maintenant, au moment du don de la Torah, que se passe-t-il? Eh bien, il revient dans le monde. Alors, s'il revient dans le monde, ça revient au même de ce qu'on a dit tout à l'heure. Le monde va disparaître s'il revient. C'est pour ça que son retour dans le monde ne se fait pas en pleine puissance, il revient par injection, comme de l'essence qui est donnée dans une voiture. C'est-à-dire juste ce qu'il faut. Et ce juste, ce qu'il faut, c'est Matan Torah au Mont Sinaï. C'est une lumière divine. Torah, c'est pas un texte, c'est Or, la lumière. Or Raïta, eh bien, c'est la lumière qui revient sur Terre. Et comment est-ce qu'elle revient sur Terre? Étape par étape. Pour laisser le monde s'habituer aux différentes étapes et ne pas brûler complètement par le retour de Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Donc on parle en fait d'un retour de Dieu. Comment est-ce qu'on appelle ça en hébreu? Une teshuvah. Donc le don de la Torah, c'est en fait une teshuvah, un retour de l'infini dans le fini. C'est le retour d'Hachem. Alors, pour comprendre tout ça, il faut bien entendu élargir tout ce que vous savez sur cette fête. Alors on va lire, j'ai appelé ce shiur Hayichud Hagadol. Qu'est-ce que ça veut dire Yichud? Ma, Yichud veut dire un lien intime. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu recrée, retisse un lien avec le monde qu'il a lui-même, entre guillemets, quitté pour lui laisser cette autonomie dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc maintenant, Akadosh Baruch Hu revient dans ce monde et il va s'unifier au monde. C'est ce qu'on appelle ce Yichud. Mais Matan Torah, Alinu, El Madregata Ofa Elohit Baolam Derech Am Israël. Donc que s'est-il passé de facto dans le premier plan? Eh bien, nous sommes montés vers un étage supérieur dans le monde, dans la vie, dans l'histoire. Et que se passe-t-il dans cet état supérieur? Eh bien, c'est le retour d'Akadosh Baruch Hu dans le monde à travers le peuple d'Israël. Donc je vous rajoute un élément que je n'ai pas dit tout à l'heure, pas assez précisément. S'il n'y avait pas le peuple d'Israël qui reçoit cette Torah, ce retour d'Hachem, c'est facile, le monde n'est pas détruit, il revient au néant. C'est-à-dire il s'auto-détruit. pas détruit, disparaît. Il n'y a pas de destruction. C'est comme si le monde n'aurait pas été créé et vous n'auriez rien su parce que personne n'aurait été là.
Mais là, on est là, on est vécu, on existe.
Maintenant, oui.
Maintenant, oui.
Mais en fait, c'est plus maintenant. Il n'y a plus cette existence puisqu'Israël a reçu. Donc à partir du moment où Israël a reçu la Torah, qu'est-ce qu'il a reçu en fait? Le droit de vivre, tout simplement. Parce que qu'est-ce qui est revenu en fait dans le monde? La vie. Alors vous, vous appelez ça la Torah. Vous êtes vécu peut-être jusqu'à maintenant en Kakados, moi vous nous avez jeté un bouquin. Ça s'appelle la Torah. Mais c'est pas ça. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est la vie qui est revenue sur terre. Sans cette vie, sans ce retour de cette vie sur terre, le monde aurait été vide. Donc abandonné, donc disparaît rétroactivement. Comme si je rembobinais le film, comme avant, et que tout disparaît rétroactivement. Et c'est pour ça que la Gemara est précise. Si vous recevez la Torah, dit Dieu à Israël, c'est bien, le monde continue et évoluera. Mais si vous refusez de recevoir cette Torah maintenant, là-bas sera votre enterrement. Pas ici. Là-bas. C'est où là-bas? Au début même de la création, je vous aurais enterré avant même de vous avoir créé. C'est ça que ça veut dire. Que rétroactivement, rien n'aurait existé. Moralité, toute la vie maintenant dans ce monde, tout ce que vous voyez dans ce monde, et pas seulement Israël, mais les nations du monde, ça vit grâce à quoi? Grâce à Israël qui a reçu la Torah. Pas grâce à la Torah elle existait. Mais si Israël ne l'avait pas reçue, le monde ne peut pas être.
Et quand on la reçoit,
eh bien, le monde, bien fait. Donc qu'est-ce qui se passait, très bonne question, avant que le monde ne reçoive la Torah?
Une préparation.
Une préparation, donc on allait vers. Et donc il y avait une condition. Et où est-ce qu'on entend cette condition-là? Dans Bereshit. On est obligé d'aller faire Bereshit. Vous êtes d'accord avec moi? Où est-ce que dans Bereshit, j'entends la condition que si Israël, dans ce jour précis, ne reçoit pas la Torah, tout est abandonné? Il y a fait. Yom HaShishi. Tu vois, à deux, vous êtes arrivés. Qu'est-ce que c'est Yom HaShishi? Pourquoi il n'y a pas marqué comme les autres jours? Yom Echad, Yom Sheni, Yom Shishi. Ça n'a pas marqué Ha. Yom Ha Revi'i. Seulement dans le sixième jour, il est écrit Yom Ha Shishi. Et ça, je pose la question dans la Gemara. Pourquoi ce He? Pourquoi tu as rajouté le He? Ha Shishi. Que s'est-il passé? C'est quoi la suite du verset? Yom Ha Shishi. Vaichulu Hashamayim Veha'aret Vekol Seva'am. Ce jour en question, Vayechoulou, qu'est-ce que c'est Vayechoulou? Kala. Khatan et Kala. C'est la même racine. C'est-à-dire, ce jour-là en question, il va y avoir un mariage entre Hashamayim, Veharet, Vekol Sevan, entre le ciel et la terre. Et les sages nous disent, c'est quoi ce jour-là en question, qui s'appelle Ha Shishi? Eh bien, le 6 du mois de Sivan. Le jour où on a reçu la Torah. Quel jour on a reçu la Torah? Le 6 Sivan. Donc le 6 Sivan est devenu, naturellement, le jour même de la... De quoi? De la signature pour le dévoilement du ciel sur la terre. Et si ce jour-là n'avait pas existé, Israël n'avait pas reçu la Torah, n'aurait pas voulu jouer ce rôle-là, eh bien, le monde aurait disparu rétroactivement, même déjà dans la création. Vous comprenez maintenant pourquoi. C'est vrai? Donc, c'est Israël qui a sorti l'humanité, et le monde entier, et la création tout entière, de cette clipa de silence. Vous avez une question?
C'est pas
quoi, c'est maintenant c'est la Gemara. Akados Borou. Bien fait. Donc, ce que tu es en train de dire, effectivement, il y a marqué que Moshe a rajouté un jour je sens Da'at, mais ça ne change pas que le fils en question, c'est la volonté divine, et qu'après, il y a encore une participation humaine à cette chose-là, pour pouvoir être un petit peu plus dans le Inyan, l'homme a rajouté encore quelque chose. Tout ça pour que quoi? Pour que la Torah soit donnée un Shabbat, et non pas un vendredi. C'est ce que Moshe a rajouté. Moshe voulait absolument que la Torah soit donnée un Shabbat, et pas un vendredi. D'après le plan divin, entre guillemets, ça devait être donné un vendredi. Moshe a fait en sorte, et Akadosh Baroukh Hou a accepté que ce soit donné un Shabbat. Mais la même lumière qui se trouve dans le Shabbat se trouve déjà en séparation le sixième jour. Et donc, ça ne change rien à la volonté divine, ça descend, mais le Shabbat, ça se réceptionne un petit peu plus. D'accord? Donc ça ne change rien au plan divin. Toujours est-il que le plan, maintenant dans sa vision large, devient de plus en plus clair. Il ne s'agit pas de fêter la fête de Shavuot comme nous l'avons fêté jusqu'à maintenant. Il faut comprendre ce qui s'est passé, et jusqu'à maintenant j'ai parlé au passé, mais maintenant je parle au présent. Ce qui se passe au même moment chaque année. Ok? Donc, Shavuot qui arrive, il faut savoir ce qui se passe dans le monde. Alors, est-ce que quelqu'un d'entre vous, d'après ce que je viens de dire, peut me dire ce qui se passe dans le monde chaque année à la même date? On reçoit la vie. On reçoit Akadosh Baruch Hu qui descend et qui se dévoile, entre guillemets descend et il ne bouge pas. Mais il y a un dévoilement, il y a une ouverture beaucoup plus grande sur l'intensité de la vie. Donc si tu vis à plein régime, qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Et après, dormir. Parce que dormir, c'est mourir un peu. Donc, si tu es vraiment vivant et que cette Torah, elle est tellement forte à l'intérieur de toi, tu es censé vivre totalement. Est-ce que le maître de la vie dort? Non, c'est pas possible. Donc Dieu ne dort pas. C'est un verset. Iné, loyanum, veloishan, shomer Israël. Pourquoi il ne dort pas? Parce qu'il n'y a pas de fatigue. Parce qu'il n'y a pas de vide. Parce qu'il n'y a pas de manque chez lui. Donc, quand nous on dort, quand nous on est fatigué, c'est qu'en réalité, on est loin un tout petit peu de cette vie. Donc, on est obligé d'aller brancher. Okay. Encore une fois, pour remplir notre batterie. Mais si on était réellement dans la vie, on ne devrait même plus dormir. Il y a des hommes qui n'ont presque jamais dormi dans leur vie. David Amelech ne dormait que 20 secondes par nuit. C'est le temps d'une respiration d'un cheval, comme ça dit la Gemara. Pourquoi? Pas parce qu'il était champion du monde, parce que tout simplement il était tellement vivant que l'inverse de la vie n'était pas en lui. Donc il était même difficile de le tuer, frère. Et c'est pour ça que vous connaissez les Midrashim, où le Malach Hamavet ne trouvait pas un instant pour venir le tuer. Pour venir lui prendre la vie. Parce qu'il était tout le temps dans la vie. Donc il fallait l'embrouiller un petit peu, pour qu'il sorte à un instant, à un moment donné de la vie, pour pouvoir prendre sa Neshama. Sinon c'est impossible. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est marqué clairement dans le Midrash. Que quoi? Qu'est-ce qui s'est passé le jour du don de la Torah? Ça, c'est après, avant, mais je parle de réellement, qu'est-ce qui s'est passé chez les enfants d'Israël? Ils ont retrouvé quoi?
Ah oui,
il n'y avait plus de mort. Vous vous rappelez cette Gemara? Traité de Shabbat à la page 85 et un petit peu plus après. Comment c'est dit qu'il n'y avait plus de mort dans le monde? Bila Hamavek. La Nessa, la mort a été avalée par l'éternité. Il n'y avait plus de mort. Donc ce que tu dis aussi, que les malades guérissaient. Chacun, les manques qu'il avait, étaient complétés par cette lumière. Vous comprenez que la Torah n'est pas un texte, que la Torah c'est la vie. Et Chayim hi la machazikim ba. Donc quand tu comprends ce degré de Chayim, tu comprends que c'est ça qui s'est réalisé au moment du don de la Torah. Birchut Arav. Donc je veux vous faire sortir de l'idée que le jour du don de la Torah, c'est seulement un jour où on commémore le don de la Torah. Je veux que vous compreniez que le retour de l'infini dans ce monde, par le biais de la Torah, donc de sa lumière, donc de son raton, qui passe par qui ? Par le peuple qu'il a créé pour être capable de faire ce travail-là. Et dans ce retour d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, eh bien, l'essence première, c'est-à-dire la morale qui était avant la création, est en train de descendre sur terre. Qu'est-ce que ça fait en réalité ? Ça fait que le monde, maintenant, va monter de niveau. Pourquoi il va monter de niveau ? Parce que si, jusqu'à maintenant, le monde était dans un tohu-bohu, 2000 ans de tohu-bohu, à partir de maintenant, il y a un peuple que Dieu prouve par la même qu'il a choisi ce peuple-là, et qu'à travers lui, il va faire descendre un moussard qui est énorme, qui n'est pas le moussard des hommes, mais un moussard divin. Et il y a maintenant un porte-parole de ce moussard-là qui va descendre sur terre et qui va transformer complètement la vie sur terre. On ne peut plus vivre maintenant comme on a vécu jusqu'à maintenant. Donc le peuple d'Israël maintenant va jouer un rôle très gênant. Pourquoi il va jouer un rôle très gênant ? Parce qu'il pousse le monde à changer, à s'élever. Non, en même temps que la Torah est descendue sur terre, qu'est-ce qui est descendu avec elle ? La haine. La haine d'Israël est arrivée en même temps. Comment est-ce que c'est dit dans la Gemara ? Que dans le Sinaï, Yardat Sina, les Israël. Il y a un petit jeu de mots entre le Sim et le Samer. En même temps que la lumière divine s'est descendue, la haine d'Israël est descendue. Pourquoi ? Parce qu'on est devenu des gêneurs. On est devenu l'enfant qui, le bon élève, qui en fait va obliger le monde à changer son niveau de vie. C'est quelque chose de très difficile à porter. Tu rentres chez toi, tu reçois des coups, tu reçois des huîtres, tu dis à ta mère sans arrêt. J'en ai marre, j'ai pas envie d'être différent des autres, j'ai envie d'être comme tout le monde. Et le peuple d'Israël, sans arrêt, et durant son histoire, ne voulait pas être différent, il voulait être comme les autres. Parce qu'il avait du mal à jouer ce rôle. Jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il ne peut pas se sauver de son propre rôle et de sa propre identité. Et donc maintenant, il faut accepter que c'est nous ce que nous sommes. C'est notre rôle. Mais c'est gênant. Donc le retour d'Akadosh Baruch Hu sur terre à travers ce Yom HaShishi dont on a parlé tout à l'heure, eh bien ça change complètement l'identité même du monde jusqu'à ce jour-là. Il y avait avant et il y a un après. C'est plus la même chose. Akadosh Baruch Hu est en train de faire passer par ce canal, qui s'appelle Am Israël, toute l'éthique divine qui était déjà au début, avant la création. Il avait ce message caché chez lui. Il attendait juste l'apparition du porteur de ce message. Le porteur de ces messages est né au moment de la sortie d'Égypte. 50 jours plus tard, Akadosh Baruch Hu immédiatement donne à ce porteur de message le message en question. C'est vrai ? Donc, Ma'alazo, deuxième ligne, ce degré-là, Rishat Barim Gdoli Bametsiyot, ça a donné une nouveauté et des nouveautés, c'est sans arrêt, de maintenant jusqu'à demain matin, vous raconter ce qu'il y a eu de changé dans le monde à partir du moment du don de la Torah au Mont Sinaï. C'est énorme ce qui a commencé à être diffusé là-bas. Donc ça, Echel Adibur HaElohim Yishama Ba'olam. Avant tout, la parole divine a commencé à être audible. Mais qu'est-ce que c'est que cette parole ? Elle est porteuse de quoi ? de lui. D'accord ? Le dibour d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas une parole vaine, c'est une parole qui est vivifiante. C'est un dibour qui est méchaillé. Quand Akadosh Baruch Hu parle, il passe la vie en même temps que cette parole. C'est pas un tam des voix et des sons. Mishmatam shel bnei Israël parcha mehem. À quel point c'était fort que la Neshama, dit le Midrash, d'Israël les a quittés. Pourquoi est-ce que la Neshama les a quittés, d'après vous? Pourquoi est-ce que la Neshama sort au moment de la mort? Pourquoi la Neshama sort du corps? Qu'est-ce qui la pousse à sortir? Elle voit quelque chose, vous saviez ou pas? Si la Neshama ne voit pas quelque chose qui l'attire, elle reste. Elle n'a rien à faire dehors. Elle veut rester dans le corps. Elle a oublié ce qui se passe à l'extérieur. Au moment où la personne doit mourir, Akadosh Baruch Hu fait voir à cette personne, à cette Neshama, une très très grande lumière. Et cette grande lumière-là, sans rentrer maintenant dans tous les détails, mais ce sont des choses qu'il faut étudier, cette lumière-là, elle attire la Neshama, et la Neshama est absorbée par cette lumière, donc automatiquement elle quitte le corps. Au moment du don de la Torah, c'est quoi la lumière qu'ils ont vue? La lumière de l'infini, béni soit-il, qui descend sur terre. Okay? Dans des études un petit peu plus profondes de la Torah, on va jusqu'à une résolution de savoir exactement entre quoi et quoi il y a eu un mariage à ce moment-là. Ça monte jusqu'à un degré qui s'appelle Keter. Sans vous embrouiller maintenant. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont vu une très grande lumière. C'est ça que je veux vous faire passer. Et au moment où ils ont vu cette grande lumière, que s'est-il passé? Donc, naturellement, leur Neshama est sorti. Et donc, à quoi ça sert maintenant? Tout le monde est mort. Alors, les anges, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le Kadosh Baruch Hu les a envoyés pour ramener la Neshama dans le corps. Donc, que s'est-il passé en fait? Il y a eu un instant de mort et de retour à la vie. Donc, il y a eu en fait une résurrection des morts. Non, le don de la Torah, il n'a pas seulement été un passage, un jour, à Kadosh Baruch Hu s'est levé le matin et il s'est dit, tiens, aujourd'hui je vais donner la Torah, on n'a rien à faire, on a deux jours libres. Okay. Au moins je vais animer leur programme, ça fait 50 jours, on est sorti d'Égypte, là-bas il y a eu plein de trucs, là depuis 50 jours il ne se passe rien. Il faut que je les occupe un petit peu. Non, c'est pas ça. C'est qu'il y a quelque chose maintenant de l'ordre de l'infini qui est en train de descendre dans le monde, et le peuple d'Israël est obligé lui-même de changer de niveau. Parce que mourir pour revenir, c'est pas seulement que Akadosh Baruch Hu leur a péri la Neshama et qu'il leur a redonné. Au moment où il a redonné la Neshama, c'était une Neshama d'un plus haut niveau. Et ça c'est aussi une règle. Qu'à chaque fois que tu dois recevoir quelque chose dans ta vie, l'instant qui est juste avant, qu'est-ce qui se passe? Pardon? Exactement. Tu as comme une yérida, comme une extinction de tout. C'est comme si l'existence que tu avais un instant avant, elle était annulée pour donner place à la nouvelle étape. D'accord? C'est une règle. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a un grand changement dans le monde, il faut qu'il y ait une forme de destruction avant. Par exemple, comment s'appelle le mont, la montagne sur laquelle Akadosh Baruch Hu a donné la Torah? Chorev, qu'est-ce que ça veut dire Chorev? Destruction. Et pourquoi on appelle cette montagne la montagne de la destruction? Que s'est-il détruit? Le niveau d'avant, l'ancien système, pour donner place à un nouveau système. Vous comprenez comment ça marche? On ne peut pas construire sur un ancien système. On est obligé de faire un reset, une mise à zéro, pour commencer une nouvelle étape. Par exemple, nous dit le Maharal que le jour de la destruction du temple, qui est né, Mashiach. C'est bizarre. Pourquoi? Parce que Mashiach étant plus grand encore que le Beth Amikdash, qu'il faut détruire le Beth Amigdash pour laisser place à une nouvelle étape qui s'appelle Mashiach. Comprenez comment ça marche? Ok. Donc à chaque fois que vous avez une extinction, ça veut dire quoi? Que le lendemain vous allez grandir, monter. Donc n'ayez pas peur de ces moments-là. C'est ce qui s'est passé chez le peuple d'Israël.
Il n'y a pas de progression évolutive.
Pardon? Non. Il n'y a pas une progression évolutive comme tu l'entends. C'est vrai. Il faut toujours remettre à zéro la position d'avant. Par exemple, les quatre premiers livres de la Torah, Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, on commence le livre de Dvarim, et comment ça commence? Elle est à Dvarim. Ou bien Ve elle est à Dvarim. Je ne me rappelle plus. Dites-moi. Elle est advarim ou ve elle est advarim? Hein? Non. Elle est, pas ve elle. Et les chachamim nous disent, c'est pas ve. Pourquoi c'est pas ve? Parce que c'est pas évolutif par rapport à ce qu'il y avait avant. C'est comme si on avait tout annulé maintenant. Et comme on dit les sages, fatal est arishoni. Qu'est-ce que ça veut dire fatal? Psolet. Qu'est-ce que c'est psolet? Détruit, comme si on avait pu le faire avant. Donc il y a une nouvelle Torah qui commence dans le livre de Dvarim. C'est pour ça qu'il n'y a pas le Vav qui fait le lien entre ce qu'il y avait avant et ce qu'il y a après. C'est incroyable ça. Donc le livre de Dvarim, c'est un livre à part entière, comme si c'était une nouvelle Torah. Et effectivement, c'est une nouvelle Torah. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a de différent? Qu'est-ce qu'il a de différent, le livre de Dvarim? Non, c'est la Torah qui rentre en terre d'Israël. Donc ça ne peut pas être la suite de l'exil. C'est encore quelque chose de nouveau. Et si tu n'es pas capable de comprendre ça, donc d'annuler l'étape précédente, tu ne seras jamais capable de monter réellement et d'avancer dans ta vie. Quel?
C'est que nous, si jamais ce qu'on a fait avant,
c'est pour ça qu'on le terme utilisé, c'est pas batel, mais pascal. Et qu'est-ce que ça veut dire l'istol, en hébreu, sculpté. On enlève de la matière. Donc tu vas retenir en fait l'essentiel. C'est ça que ça veut dire. Donc il faut être capable, il faut être courageux de lâcher prise. Hein, c'est comme quand tu montes l'escalier. Qu'est-ce que tu fais à un moment donné? Tu es obligé de quitter l'escalier d'avant, on est d'accord ou pas? Si tu as peur de le lâcher, tu peux pas monter. Quand tu marches, qu'est-ce que tu fais? Tu as toujours une jambe en l'air. Si tu as les deux pieds sur terre, tu as peur, tu n'avances pas. Donc c'est la même chose ici. La Neshama est sortie, c'est pas seulement un petit midrash pour nous raconter qu'ils avaient peur, qu'ils étaient angoissés, qu'il y avait le chauffard, qu'il y avait des bruits, qu'il y avait des sons, des machins. Ça, c'est pour les enfants. Maintenant, vous comprenez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il fallait leur faire un reset, un changement de carte mère. Alors, on leur a changé la Neshama. Maintenant, ils sont porteurs d'une Neshama supérieure à ce qu'ils avaient jusqu'à maintenant. Ils ont reçu une mana, hein, supplémentaire de Neshama. Comme, quel jour? Le Shabbat. Vous savez que Shabbat, vous recevez une Neshama Yetera. Vous avez entendu ça? D'accord? Eh bien, c'est la même chose. Quel jour la Torah a pu donner? Un Shabbat. Donc, il y a la totale. Ils ont reçu une Neshama Yetera ce Shabbat. Avec la Torah, avec le Shabbat, avec Moshe Rabbeinu, avec tout ce qui est en train de se passer dans le monde. Comment cette Neshama est revenue chez eux? Donc Akadosh Baruch Hu a fait venir quoi? Velo Chazra Alehem, Kapirin, et cette Neshama n'est pas revenue chez eux, Ela Mikor Tal Atria. Il a fait descendre, qu'est-ce que c'est Tal Atria? Une rosée de résurrection. C'est quoi cette rosée? Tu as déjà vu une rosée de résurrection, toi? Ça se met dans une potion? C'est un remède. Qu'est-ce que c'est Tal? 39, il y a Fénon. Va un petit peu plus loin, qu'est-ce que c'est 39? à part les travaux, il y a quelque chose de plus secret. Okay. C'est les trois lettres du nom d'Hachem. Les trois premières lettres. Yud, He et Vav. Quand tu les écris en les ouvrant, Yud c'est Yud, Vav, Dalet. He c'est He, Alef. Vav c'est Vav, Alef, Vav. Le tout, ça fait combien? 39. Et qu'est-ce qui manque? Le dernier He. Donc le dernier He, c'est quand, encore une fois un He à Aleph, c'est quel chiffre? 6. Donc il manque 6 pour faire de 39 plus 6, 45. Qu'est-ce que c'est 45? L'homme Adam. Adam, c'est en valeur numérique 45. Ça veut dire que la Kadosh Baruch Hu a fait en sorte que la Neshama sorte, c'est les trois premières lettres de son nom. Et une fois que Am Yisrael était prêt à recevoir la Torah, il y a les trois premières lettres qui sont revenues intégrées. Et donc maintenant les 39 se sont reliés au dernier Hé, qui fait 45, et ça donne la valeur numérique de Adam, et encore une autre valeur numérique de Géoula. Géoula, c'est aussi 45. Aujourd'hui, quel jour on est dans Omer? Oh là là, c'est incroyable ça! 45e! Punaise, c'est bizarre quand même. Donc aujourd'hui, c'est quoi cette force de cette journée aujourd'hui? C'est quoi? C'est la journée qui est 45e jour du Homer. Donc d'après ce que je viens de vous dire, c'est une journée où l'homme doit sentir qu'il est entier. Nachon, c'est recroiser sans plus. Donc il y a un renouvellement. Il y a quelque chose de très puissant. Vous savez que depuis la création du monde, le peuple d'Israël n'a pas vécu une semaine aussi belle que cette semaine. Okay? Parce que dans tout ce que vous vouliez, on n'était pas encore en Eretz Israël. Après, même quand on était en Eretz Israël, c'était pas aussi proche de la fin de tout le processus comme aujourd'hui. Donc nous sommes aujourd'hui dans une situation où Akadosh Baruch Hu nous a fait un cadeau après l'autre pendant une semaine et demie, deux semaines. C'est pas mal, mais rétroactivement, c'était loin par rapport à la venue messianique. Donc nous sommes beaucoup plus proches de ce temps messianique. Donc même si on avait des grandes choses avant, eh bien, c'est par rapport au lendemain quelque chose de plus petit. Je vais vous donner encore mieux. Qu'est-ce qui est plus grand, Shabbat ou Motsaï Shabbat? Ah, maintenant, on se dit un piège. Pourquoi Motsaï Shabbat est plus grand que le Shabbat? Vous savez pourquoi? Il y a fait un autre, parce qu'on est en éternelle évolution. Donc Motsaï Shabbat, c'est pas qu'on est descendu. On continue de monter, on a quitté le Shabbat. Ça veut dire qu'on est déjà dans un nouveau Shabbat qui va être plus élevé que le Shabbat précédent. On est dans une courbe ascendante de l'histoire. Donc chaque jour qui nous rapproche de cette globalité, de cette Emouna Kayirou, que le Ramchal Akadosh a développé, eh bien, on est encore plus proche de cette complétude. Et il y a donc quelque chose de très très fort. Donc, à Seder Hazé, ce rythme-là de Binyan, Chorban, Ve Binyan, Banouï ou Meshuchlal, je cite là un midrash que je n'ai pas rapporté, qui a marqué dans ce midrash, qu'Akadosh Baruch Hu, au moment de la création du monde, a vu un temple construit, un temple détruit, et un temple reconstruit. Comme ça c'est marqué. Mais pas seulement reconstruit, beaucoup plus fort que celui d'avant. Alors il y a un rythme dans la vie. Les Chachamim viennent nous raconter, pas des histoires de temples détruits et reconstruits, ils viennent nous raconter qu'il y a un rythme dans ce monde. C'est qu'à chaque fois, tu as l'impression d'être arrivé quelque part, après tu traites la figure, et après, quand tu remontes à la surface, tu es encore plus élevé que là où tu étais avant. Quel?
Quand on veut
D'accord. Au niveau de ce qu'il y avait dedans et de tout ce que tu veux, t'as raison. Mais il n'y a pas que la maison. Il y a le temps, il y a le monde, il y a tout ce qu'il y a. Donc tu dois tout prendre en considération. C'est ça que tu dois comprendre. D'accord ? Dans la globalité, on est beaucoup plus proche aujourd'hui du messianisme d'Israël, donc du Gmar HaTikoun, que au premier temps, puis au deuxième temps. Parce que dans la globalité, on est beaucoup plus de juifs en Israël, on est beaucoup plus fort au niveau des nations du monde, on a une souveraineté et plein de choses que tu n'as pas pris en compte avant. Et qu'aujourd'hui, le peuple d'Israël commence à être audible au niveau des nations du monde. On commence à nous prendre au sérieux. Pas ça. Non, pas vraiment. Alors, autant de Shlomo HaMelech peut-être, mais combien de monde il y avait en terre d'Israël à cette époque-là? Je peux pas comparer. Combien de gens ont étudié la Torah depuis que le judaïsme existe? Il n'y a jamais eu autant d'étudiants qu'aujourd'hui. Et payé en plus par l'État d'Israël.
En fait, c'est pour moi bien que le monde entier,
ça veut dire que tout, c'est la même chose, tu dois prendre en compte tout, et l'effet que le peuple d'Israël fait sur les nations. Ça aussi, c'est important. Et donc, ce rythme-là, Mofia Bekol Troumé Achaïm, à chaque fois, il apparaît dans tous les plans de notre vie. Zehu Mikhades Kol Shana Bechag HaShavuot. Et Chag HaShavuot, ça réapparaît. Ça veut dire on est à Chag HaShavuot, un instant de mort, entre guillemets. Après être monté, on a un instant de vide, et puis après on retrouve la vie. Comment est-ce que vous le voyez? Combien nous devions compter de jours du Homer? Non. 50. Ça a marqué la Torah Ron, qui se fait Hamishim Yom. Combien on va compter réellement? 49. Donc il y a un moment où tu te dis, ça y est quoi, c'est fini. Donc je suis mort, j'ai compté 49, ça s'arrête. Et tu as un espace de vide, et immédiatement à la sortie des 49, tu rentres dans quoi? C'est quoi le 50? C'est un domaine que tu ne connais pas. On est d'accord? C'est en dehors de la nature. Donc Chag HaShavuot se trouve où en fait? Puisqu'il est le chiffre 50, il est où? En dehors de la nature. Vous avez déjà vu une fête qui s'appelle les semaines? Je comprends pas, combien de jours ça dure? Shavuot. Un jour. Alors pourquoi tu l'appelles les semaines? Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette journée-là, à elle seule, qu'est-ce qu'elle contient? Toutes les semaines. C'est-à-dire les 7 semaines d'avant. Vous connaissez un degré qui contient 7 en lui? Et lui-même, il se contient dans 8. Shabbat, Hanouka. Et comme Hanouka, vous vous rappelez, le premier jour de Hanouka, qu'est-ce qui a marqué? Des cafés, des kiflés. Yemei Hanouka, Tmania Inun. Le premier jour de Hanouka, c'est 8 jours. La Gemara, elle parle comme ça. Dites-moi, ils ne savent pas parler, les sages? Eh bien, Shavuot, c'est la même chose. Pourquoi la Torah a fait cette fête Shavuot? Parce qu'elle contient toutes les semaines, en un jour. Donc, tout l'espace-temps est contenu dans ce non-temps, non-espace. Donc, on est où, à Chag HaShavuot? Comment est-ce qu'on l'appelle? Olam Ha-Ba. C'est ça, le Olam Ha-Ba. Et qu'est-ce qu'il y a dans le Olam Ha-Ba? La vie. Il n'y a pas de mort dans le Olam Haba. Il n'y a pas de sommeil dans le Olam Haba. Il n'y a que des Neshamot qui kiffent la Torah et la Sphina. Il n'y a pas de jour et de nuit. Donc la nuit, tu la transformes en jour. Donc c'est ce qu'on appelle la veillée. Quelle?
On avait des morts à la
Torah. Il y a fait mort. Alors, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il fallait le sortir de ce contexte tellement impossible de le tuer. Impossible de lui enlever la Neshama. Il fallait trouver une combine. Ça veut dire que c'est un jour qui est tellement fort. Et le Ari Akados, le Harizal, vous avez entendu parler du Harizal? Il nous a donné une garantie qu'aucun médecin au monde ne peut nous donner. Vous savez ce qu'il dit dans son livre, dans un de ses livres, sur Shavuot, que si tu ne dors pas, mais pas du tout, si tu ne fermes pas l'œil cette nuit-là, il te garantit une vie sans maladie, sans rien du tout, et que tu ne mourras pas cette année. Magnifique. Enfin, les mecs, pendant qu'ils sont en train d'étudier cette nuit de la veillée, s'il fait juste comme ça, c'est fini. J'ai raté mon truc. C'est dommage. Mais quel médecin peut te donner une garantie pareille? Maintenant, vous comprenez pourquoi, d'où est-ce qu'il prend ça? Parce que tout simplement, ça fait partie d'un monde où la mort n'existe pas. Bila Hamavet Lanessa. Donc, Beyom Amitgash Adol Ben Akadol Baruchu Ben Am Israël. Donc, c'est le jour de la rencontre entre Akadol Baruchu, entre le maître du monde et le peuple d'Israël. C'est un mariage, c'est magnifique. D'ailleurs, c'est le jour du mariage. Vous savez que les kabbalistes, qu'est-ce qu'ils font cette nuit-là? Vers 4h du matin, ils vont au mikvé. Vous savez pourquoi? Parce que c'est comme une femme qui a compté 7 nekiim, 7 jours de propreté, et qui va rentrer dans le mikvé pour être autorisée à son mari. Et bien c'est la même chose, mais au niveau du peuple d'Israël. Tout le peuple d'Israël, maintenant, est son épouse. Et cette nuit-là, c'est la nuit du mikvé. Le lendemain matin, à Safarit et à Moussaf, qu'est-ce qui se passe? Il y a une union entre Akadosh Baruch Hu et l'Assemblée d'Israël à un niveau extrêmement supérieur. Alors au-delà de ouais, c'est sympathique, oh là là, ça doit être grand. Qu'est-ce que ça veut dire tout ce qu'on vient de dire? Je résume. Ça veut dire tout simplement que si vous rentrez dans cette fête de Shavuot convenablement, en comprenant que réellement ils sont en train de se passer, et pas seulement oui, c'est le jour de don de la Torah, Dieu nous a balancé un bouquin sur la gueule, c'est pas ça, Chas v'Shalom. C'est la descente de l'infini dans ce monde, c'est le mariage entre l'infini et l'infini, c'est la première fois que ça se passe. Et ce mariage-là, il va donner des fruits. Il va donner des bénédictions. Et c'est pour ça que ce jour-là, dit la Mishnah, Be'atzeret Nidonim al Perot Ha'ilan. Le jour de Chag HaShavuot, le Shavuot, c'est Perot Ha'ilan. Il y a un jugement sur les fruits. Quels fruits? Les fruits que tu vas engendrer dans ta vie. Que ce soit tes enfants, que ce soit les vrais fruits, ce que tu auras à manger. Tout ça, c'est cette nuit de Shavuot. Donc il est important de comprendre le sens un petit peu plus profond de cette fête pour comprendre comment toutes les Shavuot sont pliées à l'intérieur de cette une seule et même journée. Alors, Bézard Hachem, que nous soyons prêts à recevoir la Torah convenablement, que nos kelim soient supérieurs pour que la Torah qu'on reçoive cette année soit pas seulement la Torah de l'homme, mais la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Torah Tra. Et pas Torah To. Chez la Adam. Il y a deux Torahs. C'est la Torah d'Hachem et la Torah de l'homme. Et c'est à cause du fait que nous sommes que dans la Torah de l'homme et pas dans la Torah d'Hachem qu'on a tous ces problèmes. Et aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu nous demande, et nous on lui demande, Hashivenu le Torah Teh. Hachivez-nous la Torah. Ramène-nous vers la Torah. Jamais il y a ça en hébreu. C'est ramène-nous vers ta Torah. Pourquoi il y en a une autre? Oui. C'est une Torah que tu as rabaissée à ton petit niveau. Toi, tu te dis, ouais, ça suffit ce matin. Non. La Torah d'Hachem. Pas ta mère.
Okay.
Oui, je sais, je, je,